sur France Inter, va déguster.
Eh bien, mettons les pieds dans le plat. Pour savoir ce que l'on a le droit de mettre sur les plateaux de nos marmots, il faut effectivement se lever tôt. Avant toute chose, un léger rappel sur le fonctionnement de la restauration scolaire. C'est un service public local, facultatif pour les écoles primaires, obligatoire pour les collèges et les lycées. Et les cantines sont gérées pour le primaire par les communes et pour les collèges et les lycées par les départements et les régions. Mais qu'en est-il des règles sur le contenu des menus? Concrètement, les seules règles existantes sont celles relatives à l'hygiène et à la qualité nutritionnelle des repas. Bon, c'est la base. Et c'est dans le code rural qu'on va d'abord chercher des informations. La lecture de l'article L230-5 nous apprend tout au plus que les services de restauration scolaire doivent privilégier des produits de saison lors du choix de la composition des repas. Bon, pas de quoi en faire tout un fromage. Or, en l'absence de législation nationale précise sur le contenu des menus, les collectivités bénéficient d'une très grande marge de manœuvre quant à leur choix, jusqu'à la loi Egalim. Je prends ma respiration, c'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Ouf, donc jusqu'à ce que la loi Egalim arrive en 2018 comme un cheveu sur la soupe dans l'assiette de l'écolier, pour imposer un certain nombre d'obligations.
Alors on va égrener quelques questions. Un menu sans porc, on peut ?
Alors le Conseil d'État a eu à se prononcer sur cette question l'année dernière, dans une décision du 11 décembre 2020. Dans cette affaire, il avait été saisi par la Ligue de défense judiciaire des musulmans qui contestait la décision du maire de Chalon-sur-Saône de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution aux plats contenant du porc. Le Conseil d'État s'est prononcé favorablement sur le maintien d'un menu de substitution, considérant que cette pratique n'engendrait pas de difficultés particulières d'organisation du service public et ne contrevenait pas au principe de laïcité et de neutralité. En d'autres termes, les collectivités territoriales n'ont pas l'obligation de se plier aux prescriptions alimentaires religieuses, mais elles doivent se conformer à l'intérêt général en s'efforçant de prendre en compte les convictions de tous.
Deuxième question. Un menu tout végétarien, on peut ?
Alors là encore, vous tombez à pic, puisque la loi Egalim a fait du menu végétarien une expérimentation obligatoire à compter du 1er novembre 2019. Ça fait bientôt 2 ans. Avant cette loi, aucune obligation n'existait. Et d'ailleurs, un rapport de l'Association des maires de France de 2020 révélait que la majorité des communes ne proposaient aucune offre de menu végétarien avant le lancement de l'expérimentation obligatoire. Mais le résultat reste mi-figue, mi-raisin, puisque le menu végétarien serait bien proposé dans nombre de collectivités, mais il générerait, selon elle, pas mal de difficultés pour celle-ci. La mise en œuvre en termes de composition, de diversité des repas, la formation, parfois la réticence du personnel, le coût supplémentaire, etc. Donc, du végétarien, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on doit, mais il y a encore du pain sur la planche.
Un menu 100% local, est-ce qu'on peut ?
Alors pour le local, on repassera, et cette fois c'est un peu au niveau européen que ça bloque. Alors il est vrai que la loi Egalim, elle est intervenue en faveur du bio en instaurant une obligation de s'approvisionner avec au moins 50% de produits répondant à des exigences environnementales ou sous signe de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique, et ce, à partir du 1er janvier 2022. Les gars, c'est dans moins de 4 mois, hein ? En fait, il existe de véritables contraintes liées aux règles des marchés publics qui entravent un approvisionnement local effectif car le droit européen ne permet pas, interdit même, de sélectionner un produit sur le seul critère de la provenance et donc du local. De quoi nous rester un petit peu en travers de la gorge. Il faut quand même souligner aussi que le local n'est pas tout. En effet, seuls 10% de l'empreinte écologique de notre alimentation est liée au transport, quand le reste est lié à sa production. Ce sont donc nos habitudes alimentaires qu'il faut changer,